Audiolib présente On regrettera plus tard d'Agnès Ledigue, lu par Isabelle Miller
et Mathieu Buscato.
À Emmanuel, l'homme de ma vie, l'encre de mon livre, qu'il écrit avec moi depuis plus de 20 ans et avec qui j'espère partager jusqu'à l'épilogue. À Olivier, mon meilleur ami, le frère de cœur qui sait subtilement me dire où j'en suis. Un peu mon marque-page. Dimanche 13 juin 2010. Un soir d'orage. Je suis courageuse, mais quand même. En pleine nuit d'orage, entre tonnerre et pluie battante, ces coups violents contre la porte d'entrée étaient dignes d'un scénario de film d'horreur. Après avoir sursauté sous ma couverture de laine, je dois réfléchir rapidement. Le visage de Jack Nicholson dans Shining, c'est la première image qui me vient. Il est derrière cette porte. Ma porte. Qui d'autre que lui aurait eu l'idée d'emprunter le chemin qui mène à notre petit village en pleine nuit et par un temps pareil? Mais je ne peux décemment pas rester là sans rien faire et prendre le risque de retrouver un mort sur mon paillasson demain matin sous prétexte que j'aurais eu la trouille d'ouvrir ma porte à un comédien de cinéma. Pour frapper ainsi, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide. Un psychopathe entrerait en scène plus subtilement, non? Quoique, je vais quand même chercher la poêle en fonte à la cuisine, celle que j'arrive à peine à soulever d'une main, et après avoir respiré profondément, j'entr'ouvre la porte avec précaution, l'ustensile en l'air, prêt à s'abattre sur Jack. Aidez-moi! Un homme se tient devant moi, une fillette recroquevillée dans les bras. Ils sont trempés. Il m'implore du regard et n'a rien d'un acteur américain. Soudain ridicule avec ma poêle en fonte, je la pose au sol et j'ouvre grand la porte pour les faire entrer. D'où sortez-vous comme ça? J'ai besoin d'aide. Elle est bouillante. Je n'ai plus d'abri pour elle ni de médicaments. Posez-la sur le canapé, juste là, lui dis-je en repoussant la couverture et le livre que j'étais en train de lire. Je commence à la défaire de ses vêtements mouillés et froids qui lui collent à la peau, puis je pose mes lèvres sur son front, une habitude prise avec mes élèves. Elle est effectivement brûlante. Je demande à l'homme d'aller chercher une serviette éponge à la cuisine pour sécher ses cheveux, tout en l'emmitouflant nue dans la couverture et en la frictionnant pour la réchauffer. La petite grelotte, le regard dans le vague, proche de l'inconscience. Je vais appeler le médecin, il n'habite pas très loin, il viendra vite. Merci. Comment s'appelle-t-elle? Anna Nina. Elle a quel âge? 7 ans. Vous voulez des vêtements secs pour vous changer? Je dois aller mettre les chevaux à l'abri.
Quels chevaux?
Mes chevaux. Et là, je fais le lien avec la roulotte que j'ai vue arriver il y a 2 jours et stationnée sur le chemin un peu plus haut. C'était donc eux. Allez sonner chez le voisin, il s'appelle Gustave. Il est de l'autre côté de la cour, il y a encore de la lumière chez lui. Lui dis-je en jetant un œil par la fenêtre. Précisez-lui que vous venez de ma part et qu'il faut mettre des chevaux à l'abri à cause de l'orage. La petite a fermé les yeux et tremble dans son demi-sommeil. Je lui ai recouvert la tête avec une serviette et me suis assise à côté d'elle pour appeler le médecin. Claude, c'est Valentine. Pardon de t'appeler si tard. J'ai besoin que tu viennes à la maison pour une petite fille qui a une forte fièvre. Ne me pose pas de questions, je n'aurai pas les réponses.
C'est qui cette petite fille?
Claude, pas de questions. Elle a 7 ans, elle s'appelle Anna Nina, et je n'ai rien à la maison pour soigner un enfant de cet âge. Tu as le nécessaire?
J'arrive. Le temps de monter.
Tu as vu la météo?
Évidemment.
C'est un peu pour ça qu'elle est là, je crois.
C'est la première fois que tu me fais le coup de la fièvre du dimanche soir.
C'est la première fois qu'on me fait le coup de Jack Nicholson.
N'aime pas tes mystères. J'arrive.
Anna Nina somnole. Seulement dérangée par le tonnerre qui gronde encore trop régulièrement. J'entends les hommes crier dans la nuit pour s'entendre, tant les éléments se déchaînent. Je m'approche de la fenêtre et les aperçois manœuvrant la roulotte pour l'installer dans un coin de la cour. Une probable prouesse technique avec de tels chevaux, immenses, nerveux et apeurés. La pluie est toujours aussi intense et des rafales de vent agitent les branches des arbres alentour qui fendent l'air comme des centaines de sabres. Les éclairs réguliers me donnent une image stroboscopique de leur mouvement. Personne n'oserait sortir pour affronter cette nature ingrate et violente
qui ne semble concéder aucun répit aux hommes, s'il n'y avait pas cette urgence à mettre les animaux à l'abri. Le courage ne vacille que dans les moments où la faiblesse est permise. Elle ne l'est pas ce soir. Je monte à l'étage et me précipite dans la chambre du fond, où sont encore entreposées quelques affaires de mon grand-père. Il était un peu plus petit que cet homme, mais cela fera l'affaire en attendant que ses vêtements sèchent. Quand je redescends, il est dans l'entrée avec Gustave, une petite flaque à leurs pieds. Gustave m'explique qu'il a sorti ma voiture pour mettre les chevaux dans la grange qui me sert de garage et qu'il verra tout ça demain matin, quand le temps se sera calmé. J'espère seulement qu'aucun arbre ne tombera sur la Clio, j'en ai besoin pour aller travailler. Gustave me fait ensuite signe qu'il rentre se changer et dormir. Le père de la petite le remercie chaleureusement d'une poignée de main vigoureuse, mais sans sourire. Il doit être bien trop inquiet pour cela. Je vous ai trouvé des vêtements secs. Ça date de mon grand-père, mais ça devrait vous aller à peu près. Merci. Je ne sais même pas comment vous vous appelez. Éric Duval. Valentine Bergeret. Vous avez une salle de bain au bout du couloir. Prenez une douche bien chaude si vous voulez. Il ne faudrait pas que vous tombiez malade vous aussi. Comment elle va ? Elle s'est endormie. Le médecin ne devrait pas tarder. Merci pour tout. Arrêtez de me dire merci, c'est normal. Je n'allais pas vous laisser dehors. Merci quand même. Puis il disparaît dans la salle de bain. J'entends couler la douche, en même temps que la voiture du médecin qui avance sur les graviers. Il a roulé vite malgré la pluie. Mes mystères au téléphone, comme il dit, ont vraiment dû l'inquiéter. J'entr'ouvre la porte pour être prête à le faire entrer sans attendre. La distance entre sa voiture et mon perron suffit à le mouiller lui aussi, malgré la veste qu'il a tenté de remonter sur sa tête. Il se dirige immédiatement vers la petite fille, allongée sur le canapé. En posant sa main sur son front chaud, il la réveille. La peur, et probablement la forte fièvre, suffisent à la faire hurler. J'essaie de lui prendre la main et de lui sourire, mais elle continue à appeler son père, paniquée. Il arrive en courant, dégoulinant, une simple serviette autour de la taille. Il prend sa tête entre ses mains et lui explique qu'il reste là, que le médecin est venu s'occuper d'elle et qu'elle doit se laisser faire. Depuis quand a-t-elle de la fièvre ? Depuis 2 jours. Vous lui avez donné quelque chose ? Du paracétamol, mais depuis hier soir, le flacon est vide et avec la météo, je n'ai pas pu aller à la pharmacie. D'où sortez-vous ? Lui demande Claude un peu nerveux. Nous sommes de passage. C'est grave ce qu'elle a ?
Je pense à une bronchite. Il ne faudrait pas que cela se transforme en pneumonie. J'ai un doute à l'auscultation des poumons. Je vous laisse un antipyrétique pour faire baisser la fièvre dès ce soir. Les antibiotiques, vous irez les chercher demain à la pharmacie. Vous pourrez ?
J'irai, lui dis-je. Je passe devant la pharmacie en allant travailler.
Vous avez une carte vitale ?
Poursuit Claude en s'adressant à l'homme.
Oui, bien sûr, mais il faut que j'aille la chercher. Elle est dans mon véhicule. Laissez-moi le temps de m'habiller et je...
Non, non, ça ira. De toute façon, je reviendrai dans 2 jours pour voir comment ça évolue. On verra tout ça à ce moment-là. Je vous laisse. Prenez bien soin d'elle.
C'est ce que j'ai toujours fait.
Je n'en doute pas, précise Claude.
Bien sûr que si, il en doute. Je le connais depuis trop longtemps pour ne pas comprendre les pensées tapies derrière son attitude stoïque.
Il repart aussitôt en courant jusqu'à sa voiture, non sans m'avoir au préalable lancé un regard suspicieux. Je sais ce qu'il pense. Il est contrarié à cause des mystères non élucidés, en dehors de l'origine de la fièvre. D'un autre côté, c'est pour ça qu'il est venu. Et puis, j'en suis à peu près au même point que lui dans l'ignorance. Tout est allé si vite.